Le journal d'Alexandre Sanguinetti. Bonjour Alexandre.
Bonjour. Polémique à Coins, l'accès au massif et au canyon de Porcaratch à sans guide habilité serait interdit toute l'année. Le changement climatique impacte les apiculteurs au point de menacer la survie de la filière. D'un autre côté, ce même changement climatique permet de lancer avec succès, semble-t'il, une filière avocat en Corse. Sébastien Lecornu était dans l'île hier. Le ministre des Armées a annoncé de gros investissements, notamment pour la base aérienne de Solenzar. Son commandant, le colonel Pamard, est l'invité de la rédaction. On restera sur les questions militaire d'ailleurs dans Marais Ladino avec le porte-avions Charles de Gaulle qui croise en ce moment en Méditerranée. En politique, vous avez rendez-vous avec Binti Minoudi sur RCFM et ce mardi, Patrick Vinciguerra, vous recevez Bruno Ketel.
Bruno Ketel, nommé par le gouvernement début avril à la tête de la CIVIS, la commission indépendante sur les incestes et les violences sexuelles faites aux enfants. Chaque année en France, il faut le savoir, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. 80% de ces agressions ont lieu au sein de la famille. Bruno Ketel, lui-même victime, est évoquera l'émission de cette commission créée en 2021. Également au sommaire, la politique, ancien député majorité présidentielle de l'heure, Bruno Ketel, d'origine corse, nous donnera son sentiment sur le processus d'autonomie de l'île, toujours en cours.
Merci Patrick et rendez-vous donc à midi et demi pour ce Binti Minoudi. Avant cela, le retour de la Corsica Cup. Elle se jouera du 22 au 25 mai entre la Corse, la Sardaigne, la Sicile et Saint-Martin. Vous avez le programme, le 12-13 RCFM, c'est parti. La radicalité de la municipalité de Coins a fait donc réagir. Municipalité qui a décidé par arrêté d'interdire toute l'année l'accès au canyon et au massif de Porcaratch sans un accompagnement par un professionnel reconnu. Une décision qui n'a pas manqué de beaucoup vous faire parler ce matin dans le forum d'RCFM avec Isabelle Donignazzi.
On a perdu notre âme en Corse. On est devenu un parc d'attractions. On est des Indiens dans une réserve. C'est n'importe quoi. On est des bêtes dans un parc et en plus on paye pour manger l'herbe. Je dis aux gens de se réveiller, c'est grave.
Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à se limiter pour pouvoir laisser de la place à ceux qui vont venir et profiter entre guillemets de l'île moyennant
finance, rétribution,
moyennant finance, moyennant monnaie sonnante et trébuchante, qu'au lieu de faire des choses pédagogiques, au lieu d'essayer d'accompagner les gens, c'est toujours la sanction du fric.
Si nos anciens revenaient voir ce qui se passe, ils seraient vraiment outrés. Ils diraient, mais tout ce qu'on vous a appris, qu'est-ce que vous en faites?
Il y a une formation pour être guide. On devrait tous s'inscrire dans ces formations pour obtenir ce diplôme. Comme ça, on pourra aller se promener un petit peu partout. Quand je vais me promener, c'est pas pour faire du canyoning. Hein. Moi, je vais me promener dans ces endroits-là, c'est pour admirer le paysage, pour passer un petit moment tranquille. Donc le guide, il va me servir à quoi?
En Italie, je suis allé récemment en France, là. Vous avez à l'entrée de chaque sentier quelqu'un qui regarde si vous avez les bonnes chaussures, si vous marchez bien, si vous n'avez pas une canne pour vous tenir sur trois pattes, il faudrait commencer par ça.
Alors pourquoi cette décision radicale de la municipalité? Élément de réponse et d'explication avec Rosine Balesi, maire de Coins.
Bonjour Rosine Balesi.
Bonjour.
La décision de prendre un arrêté municipal qui interdit l'accès au canyon de Porcaratch, à Pouliskiel ou de la Vac a fait beaucoup de mécontents, comme vous vous y attendiez, je crois. Certains s'insurgeaient ce matin même sur nos ondes de devoir payer pour pénétrer des lieux qu'ils avaient toujours fréquentés. Que pouvez-vous leur répondre?
Cet arrêté a dû être pris par rapport à une requête qui a été déposée contre la commune de Coins par une personne qui a été victime d'un accident en avril 2022. La commune, dont je suis maire depuis 2014, refuse d'endosser toute seule cette entière responsabilité. Les premières personnes responsables, ce sont les personnes qui empruntent ce sentier qui mène principalement au canyon de Porcaratch. Les personnes qui l'empruntent ne sont pas souvent chaussées comme il faudrait. Elles sont imprudentes. Elles se rendent compte au fil de l'accession à cet endroit que le sentier est très dangereux. Et je pense qu'elles devraient faire demi-tour avant de s'y engager vraiment.
Dans ce cadre, pourquoi ne pas avoir envisagé d'autres dispositions peut-être plus acceptables dans un premier temps? Il y avait l'un de nos auditeurs, par exemple, ce matin, qui suggérait qu'on place un agent qui vérifie les équipements à l'entrée des chemins.
La commune a pris cet arrêté pour se préserver, tout d'abord. Il est vrai que pour sécuriser l'endroit, il faudrait qu'il y ait une présence humaine. Mais évidemment, la commune toute seule, avec son budget, ne peut pas supporter ce genre de choses. Et puis, il y aurait d'autres personnes qui pourraient s'engouffrer dans cette brèche. Il y a eu d'autres blessés, il y a eu des décès, mais vous vous rendez compte?
Et précisément, c'est un arrêté, vous venez de le rappeler, qui a été pris pour protéger la commune et éviter toute jurisprudence. Est-ce que ça ne pourrait pas risquer d'en créer une autre qui pourrait mener finalement à la fermeture généralisée des espaces naturels?
Figurez-vous que j'en suis très consciente. Ça n'est pas de gaieté de cœur. Et je me rends compte qu'à travers cet arrêté, ce libre accès à cette nature qui est l'attrait de notre île, et bien évidemment impacté, tout serait impacté, parce qu'à ce moment-là, c'est toute notre île que l'on met sous cloche. Mais je suis vraiment consciente de ce problème jusqu'au bout, et je suis profondément attristée de devoir prendre cet arrêté. Mais la commune doit se préserver, et le maire que je suis également, la petite élue que je suis, je me retrouve toute seule face à ce problème, et qu'on n'a aucune aide juridique.
Merci Roselyne Balaisy d'avoir répondu à nos questions ce midi.
Merci.
Roselyne Balaisy, donc maire de Coins, s'est interrogée par Léria Marie Amousse. Le changement climatique nous impacte tous, mais il affecte particulièrement les abeilles et donc les apiculteurs. Ce week-end, le syndicat de la Haute-Corse était réuni à Pietralbe, l'occasion pour son président Alain Valentini d'évoquer l'impact donc de ce changement sur la baisse de production. La profession est aujourd'hui en danger et doit se réinventer pour survivre. Alain Valentini au micro de Christophe Duricelli.
On voit qu'il n'y a plus de saisonnalité, des ruches qui hivernent difficilement, puisque on a vu cette année qu'au mois de décembre, on avait des températures de l'ordre de 23 degrés. Et il se trouve que sur le printemps, on a des printemps très pluvieux et très froids, comme ce que l'on vit comme épisode en termes de température actuellement. L'abeille subit de plein fouet ces changements climatiques et forcément, le travail de l'apiculteur s'en trouve impacté. Il y a une réadaptation importante. Il devient très difficile d'installer des jeunes apiculteurs du fait que, en termes de rentabilité d'exploitation, vu tous ces aléas climatiques, on n'est pas sûr aujourd'hui d'assurer la pérennité d'une exploitation apicole. Une adaptation avec des purées à activité, c'est-à-dire de la diversification de produits et non plus que du miel, de manière à ce que l'exploitation et l'entreprise commerciale issue de cette exploitation puissent être pérennes.
Chaque famille française en consomme en moyenne 3 kilos par an. On ne parle pas de miel, mais d'avocat. Le fruit est pourtant produit à des milliers de kilomètres, bien souvent en Amérique latine, avec un bilan environnemental humain plutôt sombre. Entre son lien avec le crime organisé au Mexique, la consommation d'eau inhérente à sa culture, le bilan carbone du transport, y a-t-il aujourd'hui une alternative plus responsable, plus proche? La réponse est peut-être chez nous, en Corse. Des milliers d'arbres ont été plantés ces dernières années pour créer une nouvelle filière avocat. Déjà une centaine d'hectares de culture qui commencent à donner des fruits au sud de Bastia. Rencontre avec donc ces agriculteurs. Rencontre signée William Delesseux.
Voisins des orangers en fleurs, les 3 hectares d'avocatiers d'Alexandra Luciani-Giamarchi, 1500 arbres en train de bourgeonner.
Par exemple, sur une branche, vous allez avoir 500 fleurs qui vont éclore.
Et potentiellement des dizaines de fruits à partir du mois de décembre. Les plants arrivent enfin à maturité.
Cette année, ce sera la première vraie commercialisation. Très confiante, même si c'est une nouvelle culture. L'arbre est sain, la plantation est homogène. Par la suite, ça fera des très beaux et très bons fruits.
Avant, ici était cultivé des pommes de terre, du maïs. Le père d'Alexandra, Sébastien Luciani-Giamarchi, fier de ce changement.
Et en plus, l'avantage que nous avons, nous ramassons aujourd'hui, en 48 heures, c'est sur les tables. Par rapport aux avocats qui viennent du Mexique ou du Kenya, ça n'a rien à voir.
Vous avez goûté les avocats ou pas?
Ah oui, c'est le top.
Et vu les prix, ce sera aussi rentable, assure le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, Joseph Colombani, à condition de respecter des limites.
Il ne s'agit pas d'avoir une monoculture ou de monopoliser toute la plaine orientale et pour la culture de l'avocat, comme toute l'eau qui tombe en Corse, qu'elle soit monopolisée par l'avocat. Non, ça non.
L'irrigation des cultures est indispensable. L'avocat demande par exemple 5 fois plus d'eau que les clémentines pour pouvoir être produit.
Et justement, situation préoccupante pour la ressource en eau en Haute-Corse, une sécheresse marquée avec seulement 41% des précipitations normalement attendues dans une année. Pour le secteur de Bastia, 40%, celui de Solenzar à 53% en Cap-Sagre. Le comité sécheresse de la Haute-Corse précise que ces précipitations des dernières semaines n'ont pas engendré une amélioration significative des indicateurs. Par ailleurs, le déficit d'enneigement sur les reliefs n'arrange pas les choses. Le niveau de vigilance est donc conservé en Haute-Corse. Un épisode de pollution aux particules fines aujourd'hui dans l'île, particules portées par le vent du Sahara, chargées de sable. Évitez donc de fournir de gros efforts en extérieur aujourd'hui si vous le pouvez, de prendre votre voiture également. Et si vous devez le faire, eh bien réduisez votre vitesse de 20 km/h pour ne pas surajouter une pollution à une autre. 9 ans après le premier sinistre et des années de procédure judiciaire, les Bastiais pourront bientôt se recueillir à nouveau dans de bonnes conditions au cimetière de Londine. Les travaux de réhabilitation débutent. Objectif, bien sûr, remédier à des contrefaçons majeures qui avaient conduit à l'effondrement d'une partie du parking principal, à la fissuration des murs de soutènement, à des dalles supportant les caveaux ou encore à l'affaissement des chaussées. Une médiation entre les différentes parties a abouti en 2023 à une indemnisation, 14 millions d'euros. La remise en état est donc lancée. Le chantier devrait s'achever en 2026. Des travaux de confortement, nous explique Natacha Casalta, directrice adjointe des services à la mairie de Bastia.
Avoir la création de parois clouées pour la plus grande majorité des murs. On aura le mur M1 qui sera démoli et qui sera remplacé par 3 murs en restanque, donc qui abriteront des padanes et des escaliers, donc pour retravailler le cheminement piéton à l'intérieur du site. Et ensuite, on a les murs M13 et M14. Au pied de ces murs, on a de nombreux caveaux et on doit faire des micropieux sécants irrantés.
Alors, ces travaux sont prévus pour durer jusqu'en 2020. 26. Oui. Est-ce qu'entre-temps, le cimetière est fermé ou est-ce qu'il est ouvert?
Alors, les travaux se feront en site occupé, donc le cimetière restera ouvert et en fonction du phasage des travaux, ce sera des travaux itinérants. Donc, ils évolueront zone par zone et donc il y a certaines zones qui seront fermées le temps de conforter les murs.
Au chapitre judiciaire, Pierre-Alain Mitridate, Michel Alessandri, Jules-André Albertini, Pierre-Jules Federici, mis en examen dans le cadre d'une procédure visant notamment la prise de contrôle d'un village vacances en Kazinc. Ils sont poursuivis pour extorsion en bande organisée, blanchiment, association de malfaiteurs, travail dissimulé en bande organisée, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, faux en écriture privée. Les trois premiers ont été placés en détention provisoire. Le dernier a été incarcéré dans l'attente de son passage devant le juge des libertés et de la détention. 6 autres personnes ont été placés sous contrôle judiciaire dans ce dossier. L'opération a permis la réalisation de plusieurs saisies sur des comptes bancaires pour un montant global avoisinant les 520 000 euros. La mobilisation des robes noires contre une proposition de loi qui, après avoir été votée au Sénat, est soumise aux députés aujourd'hui. Elle vise à instaurer une confidentialité des consultations des juristes d'entreprise. Le Conseil national des barreaux y est farouchement opposé. Il craint que cette disposition n'affaiblisse à terme le secret professionnel des avocats. Préoccupation partagée par le bâtonnier de l'ordre en Haute-Corse, maître Benoît Bronzine de Carafe.
D'une part, ça crée une nouvelle profession qui est la profession des juristes d'entreprise, même si c'est pas dit comme ça dans la loi. Et d'autre part, ça crée un secret professionnel de nature différente de celle de l'avocat, puisque le secret professionnel de l'avocat, il est attaché à la personne de l'avocat, tandis que le secret des consultations, il est attaché à la consultation. Et donc, notre crainte, c'est que nous nous retrouvions demain avec 2 systèmes qui vont cohabiter, ce qu'on appelle le legal privilège, c'est-à-dire le système anglo-saxon, et de l'autre côté, le système de droit civil, qui est le secret professionnel. Même si aujourd'hui, cette loi ne concerne que très peu de gens et très peu d'entreprises, notre crainte, c'est que, à terme, ce soit un affaiblissement du secret professionnel. Ce que nous avons vécu par le passé, et le secret professionnel n'a été renforcé que parce que les avocats se sont mobilisés.
Au chapitre judiciaire encore, Gérard Depardieu, convoqué en octobre prochain devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre de faits d'agression sexuelle, convocation qui lui a été remise à l'issue de sa garde à vue. L'acteur a passé la journée hier au commissariat du 14e arrondissement de Paris, entendu donc après les plaintes de 3 femmes qui dénoncent des faits commis sur les tournages. À l'automne, Gérard Depardieu devra s'expliquer pour des faits dont il est accusé lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021, accusation portée par 2 femmes. Marianne Grissel.
L'une de ces 2 femmes était assistante réalisatrice sur le tournage, l'autre décoratrice. Toutes 2 ont porté plainte au début de cette année. L'assistante réalisatrice décrit à nos confrères de Mediapart des attouchements à la poitrine et sur les fesses de la part de l'acteur à 3 reprises. Gérard Depardieu finit par s'excuser, mais lui fait vivre, dit-elle, un calvaire sur le tournage. Tandis que sa collègue décoratrice détaille la force phénoménale de l'acteur qui la maintient. Il me pétrit le ventre, la taille en remontant jusqu'à mes seins. Geste accompagné, selon son récit, de mots extrêmement crus. Gérard Depardieu lui conteste les faits. Pendant sa garde à vue, il a été confronté à cette dernière plaignante, mais il n'était pas convoqué que pour ces 2 plaintes. Une 3e femme l'accuse de gestes similaires sur un tournage, cette fois en 2014, celui du film Le magicien et les Siamois. Elle aussi a été confrontée à l'acteur ce lundi, mais les faits sont prescrits et ne pourront dans tous les cas pas être jugés. Elle peut en revanche venir témoigner à l'audience du mois d'octobre.
12h et presque 15 minutes sur RCFM. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, était hier en Corse. Il a annoncé des crédits, 344 millions d'euros d'investissement, dont 234 pour moderniser la seule base aérienne de Solenzara. On en parle avec le colonel Christophe Pamard, commandant justement de la BA 126. Il répond aux questions de Christophe Duigeli.
Colonel Christophe Pamard, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes le commandant de la base aérienne et de défense de Solenzara. Sébastien Lecornu était en Corse. Il a annoncé 344 millions d'euros, dont 234 millions pour la base Solenzara. À quoi vont servir ces fonds concrètement?
Comme monsieur le ministre l'a dit, il y a beaucoup de projets de modernisation de la base, avec notamment de l'infrastructure qui vise à améliorer à la fois les capacités opérationnelles de la base, mais aussi les conditions de vie et de travail dans lesquelles viennent travailler au quotidien les aviateurs et tous les personnels du ministère des Armées présents ici.
C'est une rénovation, des améliorations dont la base avait besoin?
Tout à fait, ça fait des années que la dette dans le domaine de l'infrastructure s'accumule. Et là, on sent ces derniers temps une embellie avec une volonté de rendre des capacités meilleures. Et ça passe notamment ici par la rénovation de la piste. Donc cette piste, elle date des années 60, du début des années 60. Il y a eu des petites rénovations faites régulièrement. Mais là, il était temps de faire un travail d'ampleur. Et ça devrait être le cas à partir de 2027. Et ça permettra à la piste d'accueillir des avions de grande envergure comme l'Airbus MRTT, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc on gagnera encore en capacité à ce moment-là.
Sébastien Lecornu a parlé de l'importance de la base de Solenzara, de son positionnement. La modernisation, ça en fait partie, ça rentre dans ce réarmement que la France souhaite.
Alors oui, comme il l'a précisé, là, le contexte géopolitique fait que nos forces armées elles doivent être prêtes en permanence. Elles le sont. Le maillage de nos bases, que ce soit dans l'Hexagone, ici en Corse ou à l'étranger, il parlait des Émirats Arabes Unis, de Djibouti, on a un maillage qui crée un outil de combat global pour de la projection de force, pour de la préparation de force. Et la base de Ventiseri Solenzara fait partie de ce maillage. Là, comme vous avez pu le voir, on a un drone Reaper qui est présent depuis quelques semaines seulement. C'est une première. Ce drone fait des missions dans la zone méditerranée et il est prévu qu'il revienne régulièrement sur la base. Donc quand on parlait de capacités nouvelles, ce ne sont pas des capacités forcément propres à la base, mais en tout cas, en termes d'accueil, c'est une nouvelle capacité qu'on accueille ici.
Alors justement, quelles sont les missions des aviateurs, des militaires qui travaillent sur cette base et la capacité de projection de cette base?
Alors comme tout militaire, c'est d'être prêt. On s'entraîne tout au long de l'année dans les différents métiers qu'on peut retrouver sur une base aérienne et qui sont multiples. On pense bien sûr aux hélicoptères parce que c'est l'unité navigante présente ici qui secourt plusieurs vies chaque année et qui fait régulièrement des missions de sauvetage en complément de ce que fait la sécurité civile. Mais on retrouve les métiers de commando par exemple où on accueille ici sur cette base plusieurs centaines de commandos, jusqu'à 700 par an, qui viennent se former et s'aguerrir, faire un dernier stage de validation de compétences avant d'être projetés en opération extérieure.
Comme on l'entend souvent, ça reste un porte-avions de l'armée française en Méditerranée, c'est-à-dire avec une capacité de projection dans les pays du Maghreb, en Orient, même en Asie, on a entendu le ministre.
Alors, tout à fait. Chaque base aérienne constitue un outil de combat et une plateforme de potentiel déploiement. Ici, l'opération la plus connue et assez récente, qui date d'il y a une dizaine d'années, c'est l'opération Harmattan, c'était en 2011, où depuis ici, les chasseurs décollaient pour aller faire des missions de reconnaissance ou de bombardement sur la Libye. Et puis, beaucoup plus récemment, l'échelon national d'urgence a été déployé depuis cette base vers l'Afrique pour désengager le Niger de nos forces tel qu'était souhaité par le pouvoir politique local.
Le contexte géopolitique et les menaces ont augmenté. Est-ce qu'au niveau de l'activité de la base, ça a été pris en compte? Il y a eu certaines modifications?
On n'a pas attendu les événements récents pour s'adapter à ce contexte géopolitique et géostratégique. Parce que bien avant la guerre en Ukraine, nos autorités politiques et militaires sentaient ce tournant. Et donc, nos forces militaires se sont réorientées vers de la préparation au combat, vers de la haute intensité. La base est aussi dans cette perspective, avec des militaires qui sont en permanence prêts à être projetés là où il y a besoin de leur spécialité.
On l'entend souvent, mais en cas de crise majeure, est-ce qu'on sera en première ligne ici?
Le militaire est vraiment le bras armé du pouvoir politique. Donc nous sommes aux ordres du pouvoir politique. Ici, on a un escadron d'hélicoptères qui est davantage orienté sur le secours à personne et puis le contre-terrorisme maritime. Donc selon les opérations militaires dont il serait question, c'est pas forcément la première unité qui sera envoyée. On a beaucoup de capacités d'accueil ici, donc on pourrait s'attendre à accueillir un réservoir de force. Mais l'aviation de chasse de première ligne, par exemple, bien, on a des escadrons de rafale pour ça qui sont sur le continent et d'autres unités qui sont souvent engagées en première avant nos forces présentes ici.
Colonel Christophe Pamar, plus de 200 millions prévus pour la base ici. Est-ce qu'on peut avoir des retombées économiques sur le territoire via des marchés publics pour les entreprises?
Alors forcément, à partir du moment où de l'argent est engagé sur des travaux d'infrastructures et puis sur toute la ville, je parlais d'une petite ville, mais cet outil de combat que représente l'armée de l'air ici avec sa base, c'est un peu moins de 1000 personnes qui travaillent ici, donc un nombre à peu près équivalent de familles, d'enfants, donc on imagine facilement les retombées économique et sociale, parce que participation à la vie de la commune. Et au-delà de ça, tous ces projets d'infrastructure, évidemment, drainent de l'artisanat local, des entreprises locales qui viendront travailler sur site.
Colonel Christophe Amar, je vous remercie. Merci à vous.
Merci à vous, monsieur.
Et à 12h20 sur RCFM, on reste sur les questions de défense et de stratégie. Le porte-avions Charles de Gaulle est placé pour 15 jours sous commandement de l'OTAN pour la mission Aquila, mission menée dans un contexte, on le sait bien sûr, de tensions fortes en Méditerranée, comme l'explique l'ex-vice-amiral d'escadre Pascal Hausseur dans Marie Ladine au micro de Jérôme Souzini.
Pascal Hausseur, on était avec vous hier pour évoquer ce commandement de l'OTAN sous lequel se trouve désormais le groupe aéronaval, dont le porte-avions Charles de Gaulle. On disait que c'était un message, un signal politique en tous les cas. Au-delà de cela, que se passe-t-il en ce moment en Méditerranée qui nécessite une telle mobilisation?
La Méditerranée, elle est en quelque sorte un front indirect déjà de ce qui se passe en Ukraine et en mer Noire. Poutine a explicitement cité l'Europe comme un adversaire. La Russie a des bateaux en Méditerranée, ils sont à Tartous, en Syrie. Le fait de déployer un groupe aéronaval en Méditerranée et en Méditerranée orientale, c'est un signal finalement stratégique à la Russie pour dire « Eh bien nous sommes là également, nous avons des moyens militaires, nous sommes collectivement soudés derrière un objectif politique commun. N'essayez pas de nous intimider. Nous avons les moyens militaires de résister à une intimidation. »
Ça veut dire qu'il y a un point de tension assez exacerbé, quoi, assez élevé.
Oui. Oui, actuellement, d'une manière générale. Alors, il y a la Russie, bien sûr, mais regardez ce qui se passe au Proche-Orient, regardez ce qui se passe au Soudan, regardez ce qui se passe au Sahel. On est actuellement dans une période de tension très forte, qui est structurellement forte. C'est pas un pic de fièvre, c'est véritablement un changement de période, d'ère historique, où les Européens ont tout intérêt à montrer, un, qu'ils sont solidaires, soudés les uns avec les autres, et deux, qu'ils ont la force de se défendre, en tout cas de dissuader les autres, et trois, qu'ils ont la volonté de le faire. Et tout ça participe d'un affichage vis-à-vis de tous les observateurs et de toutes les autorités politiques qui auraient des velléités contre l'Europe, de dire, regardez, les Européens sont forts et ont la volonté d'afficher qu'ils resteront soudés et dissuasifs.
Merci Pascal Hausseur pour la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. À bientôt.
À bientôt, merci à vous.
14 ans après sa première édition, la Corsica Cup fait son retour sur le terrain de foot insulaire organisé par la Squadra Gorsa. La compétition réunira du 22 au 25 mai 4 équipes, la Sicile, la Sardaigne, la Corse évidemment et Saint-Martin. La première demi-finale se jouera à Corté le 22 mai entre Corse et Sardaigne. Coachée par Yannick Cahuzac et Gary Koulibaly, la Squadra Gorsa rejouera en Corse pour la première fois depuis 2017. L'objectif sera évidemment de remporter de nouveau cette coupe comme en 2010, à condition de parvenir à former une équipe compétitive. Ces dernières années, en effet, la Squadra Gorsa s'est heurtée à un manque de joueurs de haut niveau, comme le regrette le coach adjoint de la sélection, Gary Koulibaly.
On a du mal à sortir 30 noms en Corse aujourd'hui pour constituer une équipe. À l'époque, c'était plus facile. On verrouillait vraiment Ligue 1, Ligue 2 et on se battait pour y aller. Aujourd'hui, on a vraiment un manque de joueurs. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de piocher dans des divisions inférieures, la nationale, la nationale 2. Et dans la constitution du groupe aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment déjà des joueurs à 100% et des joueurs qui sortent d'une saison où ils ont joué un maximum de matchs pour qu'ils soient prêts à relever le défi de cette squadre qui pour nous tient à cœur.
Alors justement, est-ce que la squadre, ça peut être un moteur pour relancer la formation des jeunes joueurs corses?
Oui, bien évidemment. Je veux dire, nous, on a toujours été demandeurs d'aller en squadre. C'était vraiment une fierté de se retrouver avec une ambiance vraiment géniale entre nous, fraternelle. Et aujourd'hui, de parler de cette squadre, de vouloir redorer le blason, j'espère que ça donnera un élan justement pour les jeunes. Et il faut aujourd'hui que cette squadre fasse rêver.
Il vaudrait mieux parce que malgré ces difficultés de recrutement, le président de la Squadra Gorsa va déposer dans les semaines à venir un dossier auprès de la FFF et des instances européennes pour faire reconnaître la sélection corse comme un nouveau membre de l'UEFA, à l'instar des Dom-Tom. Un rêve, un combat mené depuis de nombreuses années par des Deniscales.
Il y a des rêves, bien entendu, mais enfin, c'est ça qui fait aussi la force de l'homme et d'une organisation, c'est d'aller chercher des rêves.
Concrètement, vous allez déposer un dossier très, très bientôt pour la demande de cette reconnaissance auprès de la FIFA et l'UEFA.
D'abord, de la Ligue Corse de football, après, bien entendu, au niveau de la Fédé, et on s'arrêtera à l'UEFA, parce que bon, la FIFA, c'est d'autres problématiques. Mais au niveau de l'UEFA, c'est identique à ce que fait aujourd'hui la CONCACAF avec justement la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Saint-Martin. Je pense qu'il y a une historique que peu de régions en France n'a, pratiquement un demi-siècle de squadre. Pourquoi aujourd'hui ne pas accorder cette reconnaissance? Le nombre de joueurs corses qui aujourd'hui alimentent les sélections nationales françaises, il y en a pratiquement très peu. Donc, à la différence peut-être des Basques et des Catalans qui, eux, bien entendu, remplissent la sélection espagnole, non, je pense qu'on y rêve, on va tout faire pour y arriver.
Un reportage signé Jean-Philippe Thibaudot.